Alors, à chaud, vous avez eu en entrevue des réactions face au dépôt de ce rapport du BST qui est apparu, je pense, hier.
Hier, exactement. Ça a été publié donc le 10 juillet, enquête qui s'est échelonnée quand même sur une très longue période. Là, on est 2 ans et demi après l'événement, bien sûr, tragique qui avait coûté la vie à un employé de la CTMA, le matelot Jean-Nicolas Poirier. J'ai eu l'occasion, dans le contexte de publication du rapport, ce sera la première entrevue que je vous présente, là, de m'entretenir directement avec l'enquêteur du Bureau de la sécurité des transports, donc qui a mené les entrevues et rédigé le rapport. C'est M. Eugen Lejankin. Donc, j'ai commencé par lui demander directement qu'est-ce que lui avait retenu comme étant les éléments qui ont contribué, donc qui ont causé finalement l'accident de travail mortel qui est survenu en janvier 2022. Écoutons sa réponse.
C'est comme chaque accident, quand ça arrive, il y a plusieurs facteurs, petits et majeurs, qui étaient réunis ensemble. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est arrivé quand la Madeleine 2, c'était le 9 janvier 2022, pendant le cassage à Cap-Amel, quand le navire était en reculant, le premier officier qui normalement a signé diriger ou superviser le processus d'amarrage dans ce cas-là en arrière du navire, il a participé activement. Ça veut dire qu'il a commencé à jouer le rôle de matelot, parce qu'il a manqué un matelot en arrière, matelot additionnel qui a dû être rappelé. Et pour cette raison, il n'a pas vu que la mare qui était coincée sur le treuil d'amarrage et la vinche a arrêté fonctionner. Et quand il s'est levé, le billet d'amarrage, c'est le billet d'amarrage sur le quai numéro 2 est cédé. Il était sur la ligne de tension de cette amarre, de la garde montante. Et quand le billet est brisé, l'amarre était frappée par l'amarre avec une énorme tension. C'est comme ça que c'est arrivé. Ça veut dire, on peut dire que l'amarre qui est coincée, le premier officier qui n'a pas vu, parce qu'il fonctionnait comme matelot en ce moment-là, pour aider à deux matelots qui étaient avec lui en arrière, et le bit d'amarrage qui est cédé.
À la lecture que je faisais du document, la compréhension que j'en avais, c'est donc qu'on avait finalement des enjeux au quai, notamment l'état du quai de Cap-Aux-Meules qui impliquait d'avoir des manœuvres un peu particulières, si bien qu'au moment où il y a eu un accident, le câble a resté pris dans le treuil et éventuellement ça a bloqué, ça a augmenté la tension, puis ça l'a exposé finalement des éléments de sécurité qui sont souvent peut-être, je dirais, on les prend pour acquis un peu là, lorsqu'on est dans des contextes de travail et de navigation, puis là, l'accident finalement a exposé là, ces petites situations-là. Mais donc, est-ce que c'est une lecture qui est adéquate de dire que c'est à la fois les installations portuaires, un accident un peu bête au niveau du câble qui s'est bloqué, et là, certaines procédures finalement, des manquements là, qui ont finalement créé un genre de cocktail qui est venu finalement causer la mort d'une personne?
Oui, parce que ça, c'est un très bon point, parce qu'en réalité, le quai numéro 2, c'est pas vraiment le quai qui est conçu pour le navire de grandeur comme Madeleine 2. Mais en réalité, pour parce que le service de traversée est très important aux îles, comme pour le ravitaillement et des questions même de sécurité civile, le ravitaillement des citoyens de des îles Madeleine. Le quai principal conçu pour la traversée il avait des travaux pour de réfection. Et pour ce moment-là, pour continuer le service de traversée, le CTMA était obligé d'utiliser le quai numéro 2, qui n'était vraiment pas conçu pour le navire comme Madeleine 2, n'était pas assez long et les bits d'amarrage n'étaient pas assez robustes. Pour le navire comme ça. La mare qui est utilisée, il peut tenir la tension de 73 tonnes et le bit d'amarrage est conçu pour tenir 20 tonnes. Le CTMA, il a fait des études pour accommoder temporairement le navire comme Madeleine 2 et attacher sur le quai numéro 2 parce qu'il y a une rampe en arrière pendant les travaux sur le quai principal de traversée. Les études mentionné que le navire pour attacher sur le quai numéro 2 doit être en mode statique. Par contre, quand le navire est approché, le treuil est arrêté de fonctionner parce que la mare était prise dans le treuil, le navire était en mouvement.
Oui, donc ça a mis de la tension énorme, évidemment.
Et énorme tension, et pour cette raison, comme le bide a cédé, et même il avait déjà des études que les conditions, certains bides n'étaient pas vraiment en bon état, certains bits n'étaient pas vraiment en bon état, et c'était moi aussi, il a fait des démarches pour remplacer ou réparer certains bits. Mm-hmm.
Donc, à la fois Transport Canada et CTMA étaient conscients que l'état du quai ne permettait pas, disons, d'opérer les opérations d'amarrage et, de manière adéquate. Là. Non, ou en tout cas, impliquait, disons, de faire des aménagements quand même au niveau de comment on procède.
C'est ça. En réalité, le Transport Canada et CTMA, ils savaient que c'est pour ça qu'ils ont fait cette étude. On peut utiliser le quai numéro 2 pour attacher le Madeleine 2 pendant les travaux sur le quai principal de traversier.
Lors d'un incident comme ça, quel est d'un accident en fait comme ça, quel est le rôle du Bureau de la sécurité des transports?
Parce que souvent, on a la question, parce que le rôle principal du BST, c'est de promouvoir la sécurité des transports. Et ce n'est pas la fonction du Bureau de sécurité des transports attribuer le blâme ou déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Par contre, quand on détermine que cette enquête est importante, il peut apporter de certains changements dans l'industrie. On procède à l'enquête qui prend assez longtemps pour déterminer les causes, les facteurs contributifs et les facteurs à risque et communiquer cette information à l'industrie pour éviter les accidents comme ça dans le futur. Mais malheureusement, ça arrive de temps en temps parce que même les procédures d'amarrage, c'est une opération, je peux pas dire, pour le traverser, c'est quotidien, même plusieurs fois par jour.
Ouais.
C'est devient une routine. Mais par contre, le danger est toujours là.
C'est un rappel, évidemment, que le danger est toujours là, même dans les opérations très routinières, peut-être même encore plus dans ce qui est extrêmement routinier, finalement.
Exactement, parce que le navire, c'est énorme tonnage, le navire qui est toujours en mouvement. Et des fois, quand on navigue, on habitue parce qu'on fait les mêmes choses, ça devient un job de la routine. Mais par contre, il faut faire toujours attention parce que la tension est énorme. Et la place est quand même serrée en avant, en arrière du navire. Il a beaucoup de machinerie, il a des winches, des rollers, whatever.
Est-ce que tous les intervenants au dossier, bon, évidemment, c'était CTMA, Transport Canada, puis peut-être même d'autres, est-ce que tout le monde a bien collaboré au travail d'enquête?
Oui, 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 mais on peut dire de côté de CTMA, parce que tous les documents que nous avons demandés, en plus, on était déployés après l'accident. On a visité le navire, on a rencontré les gens, on a passé plusieurs entrevues, et il n'y avait aucun problème avec la communication. Tous les documents exigés étaient fournis et en assez bref délai.
Et peut-être dernière question, le Bureau de la sécurité des transports est évidemment un organisme fédéral. Ici, on a un accident de travail qui impliquait à la fois des infrastructures fédérales de Transport Canada et aussi CTMA, qui est un partenaire du gouvernement fédéral à contrat pour le service de traversier. C'est quoi les mécanismes qui sont en place dans un événement comme ça pour assurer l'indépendance de l'enquête, s'assurer qu'il n'y ait pas finalement de la politique qui vienne s'insérer dans une enquête de sécurité maritime comme ça?
Bon, si je comprends, parce que Bureau de sécurité de transport, on peut dire comme agence indépendante complètement de Transport Canada, et souvent, nos enquêtes terminent avec une considération de sécurité, ou recommandation. Quand le Bureau de sécurité transport émet une recommandation au Transport Canada, on assure certains suivis. Des fois, ça prend longtemps, mais par contre, au fur et à mesure, il y a des corrections dans la réglementation ou dans la loi.
Mais à votre sens, donc, en votre qualité d'enquêteur, vous avez les moyens de faire une enquête pleinement indépendante, même si on est en train d'enquêter sur, finalement, d'autres organes du gouvernement fédéral?
Oui, parce que selon le loi du Bureau de sécurité des transports, on a beaucoup de droits à exiger les documents qu'on a besoin dans le but d'enquête ou demander une formation, soit interview, soit entrevue, soit les documents. En réalité, normalement, on a toujours une bonne coopération. Mais s'il faut, on peut aller avec la sommation et exiger les documents nécessaires pour l'enquête.
Vous avez les pouvoirs d'avoir des dents dans les enquêtes,
oui,
quand même.
Oui. Mm-hmm. Même, on a comme département légal. Uh-huh. Et s'il faut, on peut nous aider. Mais normalement, elle a une très belle communication.
Eugen Lejeune-Kidd, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup à vous.
Et toujours dans le même dossier, Raphaël Lapierre, vous êtes allé donc à la rencontre de la CTMA pour avoir des réactions suite au dépôt de ce rapport.
Oui, exactement, Stéphane. J'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur général Emmanuel Aucoin ce matin. Première question que je lui pose, comment ça a été reçu justement du côté de l'équipe de direction de CTMA, les conclusions du rapport du BST? Écoutons M. Aucoin.
D'abord, comment la CTMA a reçu, ou l'équipe de direction, l'équipe CTMA reçoit le rapport, c'est premièrement avec calme et ouverture. Je pense que c'est les mots qui nous reviennent. Le rapport et le BST lui-même a une mission de promouvoir la sécurité, puis c'est là qu'on doit faire preuve d'ouverture, puis d'avoir la même esprit, c'est-à-dire de le plus possible de protéger nos employés, nos équipages et les passagers. Donc c'est comme ça qu'on reçoit le rapport pour lequel on avait eu une version préliminaire plus tôt cet hiver et qu'on a reçu nous aussi dans les derniers jours là, la version finale. Aussi, on peut dire qu'il n'y a pas de surprise, on n'est pas surpris. La CTMA a mené sa propre enquête rapidement suite à l'accident du mois de janvier 2022. Et on retrouve dans le rapport, dans les faits, en grande majorité, le résultat de nos enquêtes, de nos informations qu'on a colligées, des témoignages de notre personnel, de nos membres d'équipage et de l'équipe de sécurité de la CTMA.
Le rapport dépeint une situation qui était quand même très complexe, plusieurs facteurs qui ont joué dans l'accident. L'état du quai qui demandait de s'amarrer dans un contexte qui était pas optimal. Il y a certains éléments liés à dans le rapport à la conception des treuils, justement, la familiarisation avec l'équipement aussi, notamment l'interface en espagnol. Bon, il y avait certains éléments donc qui étaient peut-être par rapport aux manœuvres elles-mêmes, puis à la familiarité de l'équipage avec tout ça. Avec le recul, est-ce que vous sentez qu'on est peut-être allé vite dans le déploiement du Madeleine 2?
Vous savez, la CTMA opère des navires et en opération de transport maritime. Et dans le domaine maritime, comme dans bien des domaines d'opération, surtout pour un service essentiel à une communauté, le risque nul n'existe pas et on doit à chaque jour prendre des décisions en fonction de l'information qu'on a en temps réel. Si on se rappelle de la mise en place du Madeleine 2 qui a été appuyé, le Madeleine 2 appartient à Transport Canada, il a été acheté par Transport Canada. La mise en service du Madeleine 2 était devenue nécessaire par la désuétude du Madeleine 1 qui était en fin de vie utile et même, si vous vous souvenez bien, avait même un an avant vu sa visière s'effondrer à un moment donné sur la rampe ici à Cap-Ormeul. Donc on voit que à un moment donné, on a une balance d'inconvénients ou de décisions qu'on prend ponctuellement pour assurer la sécurité. Et nous, on est des transporteurs, des opérateurs de traversiers. Et le choix était assez facile pour nos équipes, capitaines et chefs mécaniciens, d'assurer un service beaucoup plus fiable et sécuritaire avec un nouveau bateau presque neuf, malgré qu'il était nouveau. La familiarisation, l'expérience de nos équipes, le fait que notre personnel reste à l'emploi de CTMA et de longue date avec beaucoup d'expérience, connaît les quais, connaît les opérations normales du bateau, nous permettait de croire qu'il n'y avait pas nécessairement de risque plus grand que d'opérer le Madden 1 à long terme. Maintenant, on connaissait le cul et le port. Et oui, il faut toujours se rappeler que la responsabilité de la CTMA, c'est d'opérer le bateau, mais le rapport le dit lui-même. Tout le quai, l'aménagement, l'entretien et la réfection des ports et des quais appartenaient à Transport Canada par le biais de travaux publics. Donc, on n'avait aucune responsabilité à ce niveau-là et on était loin de se douter que 3 ans après, le quai ne sera pas livré encore.
C'est... L'état des bits d'amarrage fait partie justement de ce qui est nommé aussi. C'était connu par la CTMA, par Transport Canada. Il y avait eu des discussions pour les remplacer, notamment augmenter le tonnage, la capacité de portance de ces bits d'amarrage-là. Peut-être nous résumer un peu les discussions qu'il y avait entre Transport Canada et la CTMA à ce niveau-là. Pourquoi ça a pris du temps avant qu'on permette finalement de changer la bite d'amarrage alors qu'on savait que c'était pas idéal pour le bateau de cette envergure-là?
On peut pas donner de commentaires à ce niveau-là. Nous, on a fait nos demandes depuis plusieurs années. Il y avait eu une rupture de bite d'amarrage en 2018, si je me souviens bien. Puis on avait fait un rapport écrit pour demander un remplacement pour des bites de plus gros tonnage. Les raisons ne nous appartiennent pas. Dès qu'on a eu l'autorisation de le faire en décembre, quelques semaines plus tard, le 3 janvier, on commençait les travaux, malheureusement, trop tard, parce que l'accident est arrivé 6 jours plus tard. Donc, aussitôt qu'on a pu, on a mis ça en place, mais malheureusement, c'était un peu trop tard. Mais on ne peut pas commenter les raisons. Nous, on a fait nos représentations, puis quand on a pu, on a commencé les travaux.
Dans le rapport, on soulève certains éléments en lien avec l'organisation du travail, là, que ce soit au niveau des certaines procédures de sécurité. Il y avait aussi le nombre de matelots qui étaient affectés aux opérations d'amarrage à ce moment-là. Un élément qui est relevé, c'est le fait que le premier officier a dû agir comme matelot. Les gens peuvent se demander peut-être pourquoi il y avait seulement 2 matelots au niveau des équipes de travail. Qu'est-ce qui explique finalement là, que de ce côté-là, on se retrouve dans une situation où c'est relevé dans le rapport finalement?
En fait, on lit le rapport, c'est relevé qu'il était entendu qu'il y aurait 3 matelots pour la manœuvre d'amarrage le 9 janvier 2022. On lit aussi dans le rapport que pour des raisons qu'on n'a pas réussi à déterminer, autant la CTMA que le BST, il y en avait seulement 2 et que notre premier officier a participé activement là, à la manœuvre d'amarrage. Mais comme on vous dit, l'enquête n'a pas réussi à déterminer et probablement que la seule personne qui pourrait nous aiguiller est plus là pour le dire aujourd'hui, donc c'est difficile d'aller plus loin là-dedans.
Si on se place au lendemain de l'accident, quels sont justement les correctifs qui ont été apportés par la CTMA? Comment la CTMA agit là, au lendemain de l'accident? C'est relevé dans le rapport, mais j'aimerais ça vous entendre à ce niveau-là.
La CTMA, c'est à peu près la pire chose qui peut arriver. On sait une tragédie comme ça. Donc, à la CTMA, dans notre système de gestion de sécurité, on a des guides, des guidelines là, pour réagir, mais aussi pour gérer une situation comme celle-là. On peut voir que ça a été relativement efficace. Est-ce que c'est parfait? Je pense pas, mais je pense que ça a été... C'est tout à l'honneur des équipes et des équipages d'avoir été capables, dès le jour 1, d'affronter tout ça, de gérer une situation aussi avec beaucoup d'aplomb et de solidité. Il faut se rappeler que le mardi suivant, quelques jours plus tard, le bateau a réalisé son premier voyage quand même. Donc, toute une capacité de résilience d'une équipe incroyable. Fait que, on voit que c'est des professionnels, on voit qu'ils ont le sens du devoir qui est incroyable. Ça, c'est rassurant. Très rassurant, la relation, c'est très rassurant pour l'équipe de direction et pour moi qui est un des principaux du gestionnaire. Ce qui a été aussi, qui est quand même assez révélateur, c'est la proactivité. Notre système fait qu'on a des comités de gestion, des comités de sécurité, et rapidement, ils ont établi un bon nombre d'éléments à mettre en place pour essayer d'assurer la sécurité de tout le monde le mieux possible. Et c'était un mot, comme on dit, c'est pas une question de dépenses financières dans un contrat de contexte de contribution budgétaire où il n'y a pas de profit, où finalement, assurons-nous de la sécurité à tout prix, tu sais, et c'est comme ça que rapidement on a mis l'obligation d'utiliser un remorqueur à quai lors de la manœuvre d'un quai temporaire qui n'est pas adapté. C'est pour ça qu'on a mis plein de mesures en place. Et les mesures qui sont citées dans la dernière section du rapport sur les 11 actions qui ont été prises, il y en a 9 que c'était à moi et son équipe, des équipes qui ont eu l'idée et qui ont eu l'initiative de les initier, mais il y en a 9 que c'est des actions qui ont été prises par cet AMO au grand complet, et nous, c'est ce qu'on tente de faire ressortir ou de se rappeler de cet incident-là. Il faut au moins que la perte de notre collègue, de Juan Nicolas, ait servi à sensibiliser nos employés vers la sécurité, puis qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer au quotidien. C'est eux qui vont se protéger par leur connaissance, leur expérience et leur capacité à trouver des solutions, des vigilances, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on retient beaucoup. On peut pas, c'est pas une situation qui est le fun à vivre. Même encore aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment bien préparé à tout ça. Mais quand on voit la réaction des équipes, je pense que c'était vraiment une belle relation de confiance avec sa communauté, puis on l'a senti tout de suite.
Monsieur Aucoin, merci beaucoup.
Merci.